Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, dans notre culture, nous vivons dans une tourmente d'images. Elles sont aussi présentes que l'air que nous respirons et nous nous inquiétons de leur pouvoir sur nous-mêmes mais surtout sur nos enfants. D'emblée, nous les accusons de tous les méfaits, de tous les dangers et notamment la violence. Faut-il avoir peur des images? C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Dans Au fil des pages, je reçois Serge Tisseron, dont le livre Les bienfaits des images, paru aux éditions Odile Jacob, a reçu le prix Stassar, décerné par l'Académie des sciences morales et politiques, et plus particulièrement par la section morale et sociologie, au titre d'un bon éloge d'un moraliste et ou d'une œuvre traitant d'une question de morale. Donc votre ouvrage a été couronné par notre académie. Serge Tisseron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychanalyste, docteur en psychologie et directeur de recherche à l'Université de Paris 10. Et depuis plus de 15 ans, vous vous penchez sur les images et les relations que nous entretenons avec les images. Le titre de votre livre, « Les bienfaits des images », il semble complètement à contre-courant.
Oui, et c'est pas qu'une impression, c'est en effet volontaire de ma part. Les dangers des images sont bien connus, mais en même temps, le problème, c'est que souvent, on ne parle des images qu'à travers les dangers qu'elles présentent. Or, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, et même des gens de tout âge, cherchent des images pour se faire du bien, pas pour se faire du mal. Donc je crois que c'est important de comprendre quel bien nous attendons des images, quel bien elles nous font parfois, et puis ça permet évidemment en chemin de voir dans quelle situation elles échouent et dans quelle situation elles finissent par nous faire du mal. Mais je dirais les images, c'est un petit peu, vous savez, comme le pharmacon des anciens Grecs, ce remède qui pouvait s'avérer un médicament ou un poison selon les moments où on le prenait, la dose qu'on prescrivait, le malade. Les images, c'est pareil, tout est affaire d'usage.
Vous dites d'ailleurs que les images, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises d'une certaine façon en elles-mêmes, c'est la manière dont nous les recevons et dans la manière dont elles font résonance avec notre propre vécu, notre propre histoire, notre propre inconscient. Et c'est là qu'elles peuvent nous faire ou du bien ou du mal.
Oui, alors lorsque on parle des images et de leurs dangers, on envisage souvent qu'il y a les images et le spectateur des images. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autres éléments. Le spectateur des images, il a une certaine histoire personnelle. Hein. Bon, il a un tempérament, un caractère, une personnalité. Et puis surtout, il a une famille, il a des amis. Si c'est un jeune, il a des copains. Et on s'aperçoit que même les études qui ont le mieux cerner les dangers des images n'ont cerné ces dangers qu'en termes statistiques. C'est-à-dire que si un enfant est gros consommateur d'images violentes, rien ne prouve qu'il deviendra violent, délinquant, qu'il prend un mauvais départ dans la vie. Statistiquement, il a plus de chances. Mais, vous savez, les statistiques, ça ne permet rien de prévoir. C'est qu'une tendance.
Voilà.
Et en revanche, on s'aperçoit que les échanges avec la famille, avec les camarades, sont vraiment un élément déterminant dans l'influence que les images exercent sur nous.
Alors, vous avez évoqué les images violente, mais qu'est-ce qu'une image violente? Est-ce qu'il y a des critères pour la déterminer?
Évidemment, on aimerait bien pouvoir savoir une fois pour toutes qu'est-ce que c'est qu'une image violente ou pas. Alors, il y a des critères, évidemment. Dans chaque culture, les images qu'on peut définir comme violentes sont celles qui sont jugées violentes par une majorité de gens. Alors, ça a l'air d'une évidence, mais c'est important de le dire parce que c'est sur ce critère-là que se base, par exemple, la commission de classification du cinéma ou les commissions de classification de la télévision. Certaines images sont interdites au moins de 12 ans, interdites au moins de 16 ans, parce qu'elles peuvent violenter, elles peuvent faire violence à une majorité de jeunes. Alors, en revanche, il suffit de regarder des spectacles interdits au moins de 12 ans, au moins de 16 ans, il y a 15 ans, pour s'apercevoir qu'aujourd'hui, ça paraît très anodin. C'est-à-dire qu'en fait, cette norme culturelle, elle évolue sans cesse. Et c'est pour ça que parallèlement à cette norme culturelle, il faut envisager une deuxième définition des images violentes. Les images violentes, c'est les images qui font violence. Et alors là, vous voyez, on n'est plus du tout dans l'ordre, dans le registre d'une définition culturelle hein, pour une majorité de gens, mais on est vraiment dans le cas par cas. Et je dirais que si des parents se demandent quel quelles sont les images violentes pour leurs enfants, la seule manière de le savoir, c'est de leur demander. Parce que certaines images violentes pour un enfant ne le seront pas pour d'autres. Et en parlant avec leurs enfants, les parents sauront non seulement ce qui est violent ou pas pour eux, mais ils ouvriront aussi le dialogue avec leurs enfants et leurs enfants s'en porteront mieux.
Serge Tisseron, je dois le dire, dans Les bienfaits des images, est un adepte du dialogue parents-enfants. Parlons ensemble. Serge Tisseron, vous dites il y a des bonnes images, des images qui nous font du bien, ou on escompte qu'elles nous fassent du bien, en tout cas. Elles provoquent en nous un questionnement, elles nous remettent en question, elles nous font douter tout d'un coup de nos certitudes. Est-ce que l'image est un bon outil pour se connaître soi-même, pour se comprendre?
Oui, alors vous avez raison de poser cette question, parce que c'est vrai que souvent, quand on pense les bienfaits des images, on pense ces bienfaits en termes d'informations sur le monde. Vous savez, c'était les fameux films Connaissance du monde, il y a une vingtaine d'années, et puis aujourd'hui, l'idée que la télévision est un peu une fenêtre ouverte sur le monde. Mmh. Donc quand on pense bien fait des images, on pense, bon, distraction bien sûr, et puis information sur notre environnement, proche ou lointain. Mais je crois qu'il y a un troisième aspect, et c'est le sens de votre question, vous avez raison, c'est important, c'est les images comme moyen de mieux nous connaître nous-mêmes. Alors, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est tout bête. Hein. Si on regarde un spectacle de télévision avec des amis ou qu'on va voir un film avec eux, à la sortie, si on a bien aimé ou si on n'a pas aimé, si on n'est pas resté indifférent, on a envie d'en parler. Et quand on commence à parler des images qu'on a vues, de ce qu'on a ressenti, on s'aperçoit que les autres ne les ont pas ressenties comme nous. Et alors là, il y a deux choix. Soit on décide de plus parler du film, c'est souvent ce que les gens font, d'ailleurs, à la sortie du cinéma, parce que c'est trop désagréable, on a l'impression qu'on est seul à avoir compris et les autres n'ont rien compris, ou peut-être ça serait le contraire, les autres ont compris et soit on n'a rien compris, alors on évite d'en parler. Mais il y a une deuxième attitude qui est beaucoup plus enrichissante, c'est de se dire, chacun a vu son propre film, chacun a eu une relation privilégiée avec certaines images ou avec certains fragments du film, et chacun a eu cette relation privilégiée pour des raisons qui lui sont propres. Et là, quand on commence à parler, eh bien, on ne parle pas seulement du film, on parle aussi de soi, et ça peut devenir une conversation passionnante.
Ne serait-ce que parce que les images, qu'elles soient violentes, elles nous font faire un travail de mémoire, c'est-à-dire elles nous remettent avec notre enfance, avec tout ce qu'on a voulu occulter, avec tout ce qu'on a peut-être refoulé, avec tout ce qui est délicat, tout ce qui est aussi l'une de vos spécialités, les secrets de famille qu'on ne veut pas aborder, tout ça. Donc les images nous obligent à faire ce travail de mémoire.
Les images ne nous obligent pas, mais elles l'accompagnent, elles nous y invitent, elles sont une porte ouverte pour le faire. Et toutes les images et un travail pour toutes les mémoires, c'est-à-dire un travail pour la mémoire sociale. Il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui des images qui entretiennent la mémoire sociale parce qu'elles sont publiées dans les journaux, elles sont exposées dans les musées, mais il y en a d'autres aussi qui sont remisées dans les caves et dans les greniers des musées ou des agences de journaux en attente du moment où on pourra les sortir et où elles pourront mettre la mémoire collective au travail. Mmh. Et puis aussi la mémoire familiale. Alors ça, on le voit bien avec les images des albums de famille, les fameuses photographies. Chaque famille se construit une mémoire appuyée sur des images, des photos, et puis aussi maintenant des petits films, et puis de plus en plus avec la photographie numérique. Donc vous voyez, mémoire sociale, mémoire familiale, mais aussi mémoire individuelle. Mm-hmm. Et je crois qu'on sous-estime beaucoup comment le cinéma peut nous rendre notre mémoire, en nous mettant sur la voie de souvenirs enfouis, de choses qu'on a pu désirer oublier un certain temps, mais dont on peut vouloir se souvenir à nouveau. Par exemple, un film sur des accidents de voiture, dans lequel il y a un accident de voiture, peut très bien me réveiller la mémoire d'un grand-parent ou d'un parent mort dans un accident. Ou un film montrant une rencontre amoureuse peut réveiller ma mémoire de rencontres amoureuses que j'ai faites moi-même. Et lorsque nous sommes ainsi mis sur le chemin de notre mémoire personnelle, bien, je crois que nous avons tout à gagner à accepter de nous y engager. Et vous voyez que ce n'est pas partir à la rencontre des images que nous voyons, mais c'est partir à la rencontre des images que nous avons à l'intérieur de nous, mais c'est tout aussi passionnant.
C'est-à-dire qu'il y a deux sortes d'images. Il y a celles que nous cherchons et puis il y a celles que nous subissons.
Bon, oui.
Les images, évidemment, on peut penser que les images de violence ou les images pornographiques dont vous parlez aussi beaucoup dans votre livre qui s'intitule « Les bienfaits des images », eh bien, il y a sans doute des gens qui vont y chercher un bienfait ou qui croient trouver un bienfait dans certaines images de violence ou dans certaines images. Il y a des films d'horreur, par exemple.
Oui, alors là, on rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, des images qui font violence. Ces images pornographiques, ces images gore pour certaines ou sanglantes sont des images qui font violence à beaucoup de gens. Et par rapport à ces images, c'est également intéressant toujours de nous demander pourquoi elles nous font violence.
Voilà.
Et souvent, on s'aperçoit qu'elles nous font violence parce qu'il peut y avoir des épisodes de notre vie que nous préférons oublier. Il peut y avoir des désirs cachés que nous préférons ne pas nous confronter. Et puis aussi, parfois, pour des enfants, la culpabilité de penser que leurs parents les rejetteraient, les condamneraient si leurs parents savaient qu'ils ont vu ces images. Et on parle beaucoup de la violence des images pornographiques sur les enfants. C'est vrai, cette violence est terrible. Hein. C'est des images pornographiques font beaucoup de mal aux enfants, mais elles leur font d'autant plus de mal que quand un enfant voit des images pornographiques, en général, il pense que ses parents ne l'aimeraient plus si ses parents l'apprenaient. Et je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'éducation de prévenir les enfants qu'ils peuvent voir des images pornographiques, des images de sexualité crue, des images violentes, et que s'ils les voient, eh bien, leurs parents ne leur en voudront pas qu'ils les aient vues, mais que leurs parents sont disponibles pour en parler avec eux.
Oui, c'est l'image idéale des parents disponibles pour parler avec leurs enfants.
Mais c'est pas
c'est déjà un problème de société.
C'est un problème de société, mais je dirais que ce n'est pas une question de temps. Les parents, quand on dit que c'est important de parler entre enfants et parents, les parents disent souvent qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de regarder les spectacles de nos enfants, on est fatigué le soir, etc. Mais je crois que c'est plus une question de disponibilité, vous savez, c'est plus une question de trouver quelques mots simples pour dire à l'enfant qu'on est disponible pour parler avec lui. Et si l'enfant le sait, il ne va pas en abuser parce qu'il voit bien que ses parents sont fatigués, qu'ils ont leurs propres problèmes. Mais l'enfant, en tout cas, s'en sentira le droit. C'est ça l'important.
Serge Tisseron, c'est vrai que dans votre ouvrage « Les bienfaits des images », vous n'abordez pas seulement les images auxquelles on pense spontanément, c'est-à-dire le film et la télévision, mais vous abordez en effet toutes sortes d'images, celles qu'on peut voir à l'école, par exemple, celles qu'on peut voir dans les mémoriaux des musées. Vous abordez toutes sortes d'images parce que vraiment notre environnement nous abreuve d'images, enfin nous en avons plein. Quelle serait selon vous une bonne éducation aux images? Comment apprendre à se faire du bien avec les images?
Alors c'est d'autant plus important cette question que souvent quand on pense éducation aux images, on pense éducation aux images pour protéger les jeunes contre les images violentes. Mais apprendre les choses comme ça, ça excite pas beaucoup les pédagogues et puis ça effraie plutôt les enfants. Donc je crois qu'il faut changer de point de vue sur l'éducation aux images et se dire que l'éducation aux images c'est vraiment important aujourd'hui, mais c'est important pour permettre que les enfants vivent en paix avec les images qu'ils peuvent rencontrer. Alors évidemment, on peut espérer qu'il y ait moins d'images violentes, hein. Ça serait important que les télévisions, les réalisateurs de cinéma prennent mieux conscience de leur responsabilité. Mais en même temps, il ne faut pas rêver. Toutes les préconisations de réduction de l'environnement de la violence des images n'ont jamais été suivies d'effet. Donc, même si on souhaite que nos enfants ne verront pas d'images extrêmes, il faut quand même les préparer à ce que ça soit possible. Alors comment? Ben, je dirais en leur permettant d'utiliser les moyens qu'ils utilisent spontanément pour se protéger quand ils sont trop malmenés par des images. Et on s'aperçoit que ces moyens, eh bien, ils sont au nombre de trois. Tout d'abord, c'est la parole. Les enfants sont comme les adultes. Quand ils sont bousculés par quelque chose, ils cherchent tout de suite quelqu'un pour en parler. Et vous savez, c'est le grand succès du téléphone portable. Avec le téléphone portable, on est sûr d'avoir toujours un interlocuteur si on a un événement important. Les enfants sont comme les adultes. Ils ont besoin de parler. Et ils ont besoin de parler pas seulement avec leurs copains, parce que ça, ils le font, mais aussi avec des adultes, avec les pédagogues, avec les parents. Deuxième moyen, on s'aperçoit que les enfants prennent beaucoup plus de distance par rapport aux images quand ils ont la possibilité d'en fabriquer eux-mêmes. Et fabriquer des images avec des appareils photographiques, photos, caméscopes, petites émissions de télévision. Il y a beaucoup à faire dans le domaine de l'éducation nationale pour créer cette possibilité, acheter du matériel et tout. Et puis il y a un troisième moyen, c'est les enfants qui ont besoin de passer par le jeu corporel, vous savez, le jeu des cours de récréation. Et il faut comprendre que certains enfants ont besoin de cela. Et là aussi, ça serait important qu'il y ait des activités de jeu corporel autour des images, surtout pour les enfants petits, de jeu théâtral, de jeu de rôle, et que ces activités soient encadrées par des adultes. Et puis dernière chose, eh bien, travailler sur les images que les enfants ont vues et dont ils ont eux-mêmes envie de parler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir imposer une éducation à l'image à partir des images que les adultes choisiraient, mais travailler avec les enfants sur les images qu'ils ont vues.
Serge Tisseron, je vous remercie. Les bienfaits des images, votre ouvrage qui vient de sortir chez Odile Jacob et qui a été couronné du prix Stassard de l'Académie des sciences morales et politiques. J'espère qu'on aura une autre occasion de vous retrouver sur cette émission Au fil des pages dans Radio-Canal Académie. À bientôt.
Au revoir.
Thank you.
Canal Académie.